le printemps. C'est l'époque des nettoyages. Nettoyez votre sang et votre tube digestif avec une tasse de thé des familles qui donne bon estomac, bon foie, bon intestin.
Pas de santé, santé des familles.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Mais oui, préparez-vous un bon thé, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles. C'est le printemps, l'air change, les jours rallongent, tout semble possible, même la beauté dans ces temps troublés. Ouvrez aussi grand les yeux, car aujourd'hui, on vous parle de Botticelli et de son tableau, le printemps, évidemment. Bonjour Anna De Benedetti.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, commissaire d'exposition et actuellement directrice de la Fondation Bamber, musée d'art à Toulouse. Vous avez récemment été la co-commissaire avec Pierre Curie de l'exposition Botticelli, artiste et designer au musée Jacques Marandry. C'était à Paris de septembre 2021 au 24 janvier 2022. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on en parle, nous décrire le printemps de Botticelli qui n'est pas son œuvre la plus connue, il faut le dire?
Alors non, c'est pas son œuvre la plus connue. Et en même temps, c'est une œuvre très importante dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art occidental, puisque c'est la première œuvre mythologique à part entière. Et elle fait partie d'un tout petit groupe d'œuvres de scènes mythologiques que Botticelli a réalisées, bien qu'il est maintenant le plus connu comme peintre de mythologie, puisqu'on n'en compte que quatre, alors qu'on compte des centaines de Madones à l'enfant et des centaines de scènes religieuses. Donc le printemps, je crois que tout le monde l'a quand même un petit peu dans la tête.
C'est toujours bien de le redécrire.
C'est toujours bien de le redécrire. Ouais. Donc on voit des personnages dans une espèce de forêt fleurie, avec un parterre fleuri. Des personnages qui donc distribuent des fleurs, qui dansent en ronde, qui touchent de son caducée quelques petits nuages impertinents. Et puis un Cupidon qui est vraiment au centre, au-dessus, en position haute au centre du tableau, qui semble vouloir décocher une flèche et piquer d'amour l'un des protagonistes.
Alors pourquoi ce tableau, le printemps de Botticelli, qu'on a quand même peut-être en tête, même si voilà, on va en parler pendant une heure avec vous, n'est pas le plus connu de Botticelli? Pourquoi, par exemple, on peut parler de la naissance de Vénus, a plus marqué les esprits que ce tableau-là qui, quand on le regarde, moi je ne l'ai pas vu en vrai, hein, vous oui, a quand même quelque chose d'extrêmement frappant par ses contrastes, par ses dimensions aussi.
Alors c'est vrai qu'il est très grand, hein, il fait 2 mètres sur un peu plus de 3 mètres. Il est sur panneau de bois, hein, tandis que la naissance de Vénus est un tout petit peu plus petite et sur toile. Donc on a déjà 2 supports différents et surtout peut-être que la naissance de Vénus présente aussi une femme nue, la beauté incarnée finalement dans le pinceau du peintre, à travers le pinceau du peintre. Et puis surtout, par rapport au printemps, Vénus a voyagé. Donc, dans les années 30, elle a fait un peu le tour du monde avec des chefs-d'œuvre d'Italie que Mussolini avait envoyé à travers le monde pour faire un peu de la propagande de l'art italien. Donc, elle a été plus offerte au regard, quelque part, que le printemps. Et elle est peut-être, tout en étant mystérieuse elle aussi, un tout petit peu moins énigmatique que le printemps, qui se prête à une pluralité de lectures.
Donc par exemple, on va évoquer ces différentes lectures, est-ce qu'on peut revenir quand même plus sur la description de ce tableau? Vous l'avez dit, il est très grand, on est frappé tout de suite par, d'ailleurs je vous ai posé la question juste avant l'antenne, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, mais en fait le parterre de fleurs et les arbres semblent très sombres, je me demandais si c'était un problème juste de reproduction, ou peut-être aussi de vernis qui a vieilli, et voilà, cette noirceur est vraiment frappante. On dirait presque une très grande tapisserie assez inquiétante. Est-ce que si on rentre dans les détails de ce tableau, au-delà de la composition des figures, ce décor, ces fleurs qui évoquent tout de suite le printemps, c'est quand même un printemps un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est un peu effrayant ce parterre très sombre.
Alors, il est effectivement assez écrasé par les reproductions. Quand on le voit en vrai, donc aux offices à Florence, c'est beaucoup moins obscur, c'est beaucoup plus frais. Et d'ailleurs, cette œuvre a été restaurée en 1982 par l'Opificio delle Pietre Dure et lui a redonné tout son éclat. Hein. Ça n'avait jamais été touché depuis sa création 500 ans plus tôt.
Donc, c'est, ouais, voilà, il faut le dire aussi, j'ai oublié de le dire, c'est un tableau qui date de 1481-82, c'est ça ?
Alors, on ne sait pas.
Ah, on ne sait pas, mais à peu près dans ces eaux-là quand même.
Alors, on est fin autour, du 15e. On est autour de 1480. Il y en a certains qui penchent pour une date vers 1478, d'autres pour 1481-82. En fait, le pivot, c'est le départ de Botticelli pour Rome, où il va aller décorer la chapelle Sixtine, donc la chapelle privée du pape. Et donc, est-ce que cette façon de peindre se ressent des expériences qu'il a faites après? Enfin, qu'il a fait pendant son voyage à Rome, et donc est-ce que c'est le résultat des expériences acquises à Rome, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait fait juste avant de partir? Et là, tout est la question, et ça fait partie aussi du mystère de cette œuvre.
Donc, on ne pourra pas trancher aujourd'hui. Vous ne savez pas, alors, on ne saura jamais.
C'est plus prudent de ne pas trancher tant qu'on n'aura pas découvert dans les archives florentines un contrat ou quelque chose qui nous permettra effectivement de donner une date précise. Et il y a certaines œuvres de Botticelli qui ont encore leur contrat, dont on connaît les contrats. Il vaut mieux être prudent et faire des propositions.
Alors, vous l'avez dit, ça a été rénové à peu près 500 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? On a redécouvert des couleurs, on a redécouvert un tableau d'une certaine manière quand on a restauré ce tableau?
Oui, on a redécouvert en fait toute la fraîcheur de ce tableau, toutes ces couleurs assez scintillantes, on va dire. Enfin, scintillantes, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais des couleurs fraîches, puisque au fur et à mesure du temps qui passe, les vernis se ternissent, prennent de la poussière. Enfin, et donc deviennent opaques. Et toute la difficulté, c'est finalement d'arriver à récupérer la fraîcheur du tableau sans endommager la couche picturale originale. Et c'est ce que les restaurateurs de Florence ont réussi avec maestria, comme on dirait.
Alors à ce moment-là, vous apparaît le fait que c'est pas un tableau aussi sombre que ça, qu'il y a pas non plus, on peut pas dire non plus que c'est un tableau où il y a seulement du noir qui entoure ces figures blanches et qui éclate au visage. C'est un tableau, vous nous avez dit, assez frais. Pourquoi c'est assez frais? C'est quoi? C'est des choix de verre? C'est les fleurs qui sont représentées?
Alors oui, c'est les fleurs qui sont représentées, c'est la pâleur des personnages, c'est la transparence des étoffes sur les nymphes, par exemple, c'est le rouge du manteau de Vénus, c'est la robe peinte ou brodée de Flore, le bleuté de la peau de Zéphyr qui ravit Chloris qui se transforme en Flore. Donc là, je commence un petit peu dans l'analyse du tableau. Mais donc oui, ce sont toute cette harmonie de couleurs en fait, avec piqué de fleurs, hein, ce parterre piqué de fleurs. On a recensé à peu près 138 espèces de fleurs qui appartiennent à toute la saison du printemps, avec vraiment une étude presque botanique et très exacte. Donc ici, on a vraiment une espèce de compendium du printemps. On a le printemps dans une petite fiole, en fait. On a un concentré de printemps qui est assez remarquable. Et puis en même temps, on est dans un espèce de sous-bois. On a un espèce de royaume. On est bien. On est un espèce de cocon. Et on est devant cette scène. Et comme on en parlait tout à l'heure, on est presque devant finalement une scène de théâtre, on est presque devant un décor.
C'est le côté tapisserie justement.
Alors il y a un côté tapisserie effectivement, et souvent dans l'histoire de l'art, les historiens ont eu cette tentation de le comparer un peu à une tapisserie, notamment parce que pendant tout le Moyen-Âge et une grande partie de la Renaissance, il y avait cette tradition de la tapisserie de mille fleurs. Et donc ces tapisseries qui étaient piquées de mille fleurs différentes, c'était comme ça que cela s'appelait, et ça reprend un petit peu cette esthétique, mais je pense que ça la développe et ça va bien au-delà, faisant de cette œuvre, et c'était sans doute peut-être aussi son but, une œuvre profondément florentine, profondément toscane et profondément de ce troisième quart du XVe siècle qui est si important, puisque c'est l'âge d'or de la culture humaniste promue et voulue par Laurent le Magnifique.
Thank you. Nous n'avons d'autre choix que de continuer à vivre.
Ce n'est pas le Vénus et Mars ?
C'est un autre Vénus et Mars, dans une orangerie cette fois, au milieu de fleurs et de fruits très colorés. Je vais l'intituler le printemps. Parce qu'après la mort, la vie reprend son cours. Comme la nature.
C'est un extrait de la série Les Médicis, Maîtres de Florence, une série qui date de 2016-2019. On vient d'y entendre le peintre Botticelli en train de réaliser un croquis du printemps. Vous l'avez dit, Anna de Benedetti, ce tableau, le printemps, s'ancre dans une culture florentine. Avant d'être un tableau uniquement de Botticelli, c'est d'abord le reflet d'une époque, c'est ça ?
Oui, alors c'est une des lectures qui a été proposée dans le passé et à laquelle j'adhère complètement. C'est le reflet effectivement de la vie à Florence aussi. Dans beaucoup d'œuvres de Botticelli montre à quel point il est sensible à ce qui l'entoure, à quel point il est observateur de tout ce qui se passe à Florence. Et il faut savoir que Florence c'est une ville-cité donc qui est constamment animée de processions, de festivals, sans compter les mariages, les joutes, les tournois, les entrées triomphales dans la ville. On reçoit les alliés avec force de chars, de processions, de décors éphémères. Et Botticelli participe à tout ça. Il dessine des étendards, le plus connu étant bien sûr celui qu'il a dessiné pour Julien de Médicis. Et donc nous savons qu'il était tout à fait partie prenante de cette vie populaire animée d'images et animée de couleurs. Et ici on reconnaît bien dans notamment les costumes, on va dire, de ces personnages un espèce de mixte entre des vêtements contemporains, peut-être un petit peu dépassés en date, comme l'a souligné d'autres historiens avant moi, des costumes réellement qu'on aurait pu voir dans les festivités qui avaient été faites. Notamment Flora, il y a toute une interprétation, un courant interprétatif qui propose que finalement la robe de Flora, qui est couverte de fleurs, ce serait une robe peinte et non une robe brodée. Et on peignait les costumes qui avaient une vocation éphémère en fait. Et donc on retrouverait là, en quelque sorte, des personnages qui font écho à ces personnages incarnés par les demoiselles et demoiseaux de Florence quand ils sont en procession.
Est-ce que justement on peut rentrer dans le détail alors de ces personnages qu'on voit ? Il y en a plusieurs. Alors quand même, moi j'ai découvert quelque chose en préparant l'émission, c'est que c'est un tableau qui se lit de droite à gauche, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on voit, on peut voir une sorte de progression narrative dans les personnages et dans certaines interprétations qui ont été faites du tableau. Ce qui veut dire que c'est un tableau qui se lit pas déjà forcément de gauche à droite, mais que déjà c'est aussi un tableau qui se lit et pas forcément qui peut se voir de manière, on va dire, simultanée où tous les personnages évoluent en même temps.
Alors, c'est une des caractéristiques de la plupart des œuvres de Botticelli, c'est qu'on peut la lire à différents niveaux. Et effectivement, une des interprétations prépondérantes, c'est qu'on lit le tableau de droite à gauche, parce que, en fait, ce serait la représentation des anciens dieux romains de la saison du printemps. Donc on aurait donc Zéphyr, ce dieu qui arrive au moment où il va réchauffer l'air après les rigueurs de l'hiver. Dans le mythe, Zéphyr ravit Chloris, la nymphe Chloris, qui, par ce rapt, mais au sens étymologique du terme, devient Flora, la déesse de la germination, la déesse qui fleurit. Et Flora est donc représentée, on a sous les yeux quasiment une métamorphose au sens ovidien du terme. Et puis Vénus, qui se détache sur un buisson de myrte, le myrte étant la plante qui lui est consacrée. Et Vénus, qui est bien sûr le double d'Aphrodite, est rattachée au mois d'avril. Donc Vénus, c'est la figure tutélaire du mois d'avril. Les Grâces, elles-mêmes, sont les compagnes de Vénus. Et elles dansent dans cette ronde. Et elles sont décrites dans plusieurs textes latins. En train de danser seule avec cette espèce de robe un petit peu transparente. Et enfin, Mercure, lui aussi, est, dans l'ancien calendrier romain, associé au printemps. Donc on aurait ici, d'une façon assez panoramique, les mois du printemps, puisque Mercure est par ailleurs associé au mois de mai. Donc on a les mois qui forment la saison du printemps, comme ça, se déployant sous vos yeux.
Alors c'est aussi assez frappant de voir cette progression qui semble presque spirituelle, c'est-à-dire qu'au-delà d'une progression temporelle ou spatiale, il y a quelque chose aussi qui se produit, on a l'impression qu'on assiste à une élévation de l'âme, ou en tout cas une élévation de l'amour.
Alors, on est.
Est-ce que je suis déjà dans l'interprétation et vous dites que je vais un peu trop loin?
Vous êtes dans l'interprétation, mais c'est tout à fait légitime, puisque cette œuvre se prête à l'interprétation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Renaissance, et ça, Léon Battista Alberti l'écrit dans le premier texte, dans le premier traité sur la peinture qui est rédigé en termes humanistes, qui est donc rédigé en 1435, il dit, dans ses recommandations aux peintres pour faire un beau tableau, il faut que l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire, c'est-à-dire la composition, puisse divertir les non-savants comme les savants. Et donc, il y a une pluralité des sens, il y a des strates qui, ici, sont intéressantes à décortiquer. Et c'est aussi une des occupations de l'époque, c'est de commenter. Et on a une preuve de ça, c'est qu'en vers 1476, donc on est aux alentours de la réalisation de ce tableau, un autre humaniste du nom de Augurelli nous dit ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir discourir à partir de cette composition. Et il le dit justement à propos du fameux étendard que Botticelli a réalisé. Et c'est presque plus intéressant que la beauté que dégage le tableau.
Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à l'époque, les tableaux étaient faits pour être des sujets de discussion avant d'être des sujets qu'on pouvait afficher, contempler ou réserver à certains. C'était vraiment ce qui animait une forme de vie culturelle, de discussion. C'était un peu ce qu'on peut dire que c'était les sujets de débat de l'époque.
En partie, oui, tout à fait.
Nous, on parle de série ou de la réforme des retraites.
Toute proportion gardée, en effet. Mais aussi, le fait que dans le printemps, on peut reconnaître, par exemple, plusieurs sources textuelles et non pas une seule, stimule aussi cette interprétation. À l'époque, je pense qu'un des personnages qui était un proche de Botticelli, mais qui était quelqu'un de très important, Ange Politien, en italien Angelo Politiano, qui était un jeune homme prodige, qui est rentré très tôt, à l'âge de 19 ans, au service de Laurent le Magnifique, qui était tout à fait versé dans les études latines et grecques, poète de son état, poète de poésie néo-latine, mais surtout aussi poète de poésie en langue vernaculaire, a lui-même, dans ses textes, s'est inspiré fortement de tous ces courants de la poésie latine, de toutes ces métaphores, de toutes ces images. Et donc, il est fort probable que Politien a beaucoup conseillé Botticelli dans la composition, si vous voulez, de cette œuvre. D'autant plus que Botticelli était, et c'est en ça qu'on reconnaît sa singularité et sa particularité parmi les autres peintres de l'époque, il était extrêmement doué pour transcrire en termes graphiques des messages très complexes.
Donc là, par exemple, le message très complexe dans ce... Si c'est un tableau qui prête à l'interprétation, qui est même fait pour ça, est-ce qu'on peut en déduire un seul message ?
Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert à cette pluralité des sens. Et il y a cette explication d'une illustration relativement traditionnelle du calendrier romain.
Donc ça, c'est la plus répandue, d'une certaine manière, la plus littérale.
C'est celle qui, à mon avis, est une des lectures convaincantes, hein, puisqu'on arrive à vraiment identifier tous les personnages. Mais il y a aussi ce que Abby Warburg, qui a été un des premiers à disserter à la fin du 19e siècle sur la naissance de Vénus et le printemps. Il y a aussi une dimension sans doute philosophique, puisque lui, il disait effectivement, plutôt que le printemps, en fait, il s'agit surtout du règne de Vénus. Et on voit bien que Vénus est la figure centrale, qu'elle domine ce monde sur lequel elle règne réellement. Et Vénus, dans la philosophie néoplatonicienne qui se développe à cette époque, sous l'égide de Marcille Ficin, Vénus, c'est le savoir. Vénus, c'est humanitas. Donc on a également cette interprétation-là. Il y a encore une autre interprétation qui est celle pour laquelle ce serait comme un espèce de thème astrologique, même si celle-ci, moi personnellement, je n'y souscris pas, puisque Marcille Ficin avait écrit une lettre qu'on connaît bien au neveu de Laurent le Magnifique. Alors, il s'appelle aussi Laurent. Donc, du coup, pour le différencier, on va l'appeler Lorenzo. Donc, ce jeune homme prodige, en 1477-18, Ficin lui écrit une lettre où il dit « Attention, ne te repose pas sur les prédispositions de ton signe, mais travaille humanitas telle qu'elle est personnalisée, incarnée par Vénus, avec l'influence de Mercure. » Donc on a aussi là deux personnages du printemps qui correspondraient. Donc on a vraiment cette pluralité.
Et pourquoi cette interprétation, elle ne vous convainc pas ?
Parce qu'elle quand on lit toute la lettre, elle est assez éloignée. Elle est intéressante. Peut-être que il y a peut-être un lien, ou juste comme on dit souvent, une communauté d'esprit qui fait que ça fait sens après coup. Mais je pense pas que ce soit tout à fait ça. Et puis il y a Frances Yates, qui était une très grande historienne également, qui a vu dans cette composition une image du monde, telle que la décrit Ficin dans un de ses livres qui s'appelle « Sur la troisième vie », justement sur la vie spirituelle, où elle verrait une représentation de l'univers et des lois régentes de l'univers. Voilà, le désir qui fait mouvoir les choses. Et là aussi, ça tire peut-être un peu vers la surinterprétation. Mais ce qui est sûr, c'est que on reconnaît dans cette composition vraiment la quintessence du monde sous l'âge d'or de Laurent. Et je pense que ça, c'est vraiment ça qui a aussi marqué les esprits.
Mais par exemple, moi qui regarde ce tableau en 2023, toutes les références dont vous parlez, elles ne me sont pas du tout évidentes. Et pourtant, c'était un tableau qui a été fait aussi pour être vu par le plus grand nombre et qui plaît, en fait, de fait, qui est frappant, qui a quelque chose d'extrêmement saisissant, même quand on ne le voit qu'en reproduction, en fait. Qu'est-ce qu'on voit quand on n'a pas toutes ces références en tête ?
Alors, il était fait pour être vu par le plus grand nombre, oui et non, parce qu'on ne sait pas exactement pour qui il a été fait. On imagine que c'est soit Laurent, soit Lorenzo, soit pour Lorenzo par l'intermédiaire
de
Laurent.
Mais c'est un tableau de commande, donc il était destiné à être...
À être plutôt dans une maison privée.
Voilà. Donc, pas du tout quelque chose qu'on expose, bien au contraire. Donc, quelque chose d'intime.
Quelque chose de relativement intime, quelque chose qui pouvait être vu sans doute par les membres de la familia. Et la familia, à l'époque, c'est pas seulement la famille au sens biologique du terme, mais ça peut être toute la sphère d'amis qui est... coutumière habituée des lieux, et non pas dans un endroit semi-public, comme peut l'être un tribunal ou un endroit complètement public, comme peut l'être une église. Donc il était certainement réservé quand même à un public plus ou moins d'élite, mais ce qui est très intéressant, c'est que la foule de détails, la varietas, comme le dit Alberti, donc cette variété, le rapport de ces personnages qui sont tous engagés dans un geste différent, est tout à fait divertissant. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir ces repères érudits. Alors bien sûr, ça apporte quelque chose quand on veut discourir sur le tableau, mais on peut se perdre dans le tableau, on peut se perdre dans les détails, on peut admirer, contempler tout ce qui s'y passe sans faire référence justement à cette interprétation très érudite qui a été développée par la suite et peut-être à l'époque aussi, mais on n'a pas d'archives, on n'a pas de témoignages écrits de ça. Donc tout cela finalement, et le fait que les spectateurs de l'époque reconnaissaient sans doute aussi ce monde auquel ils étaient accoutumés, font que c'est captivant. Et puis, il y a aussi cette très grande beauté, cette beauté des personnages ici de Botticelli, qui sont tout à fait aussi fascinants, presque dans le terme, enfin étymologique même du terme fasciné, qui est vraiment comme un charme qui vous ensorcelle tout à fait sur cette. Et c'est là aussi où ce tableau est tout à fait intéressant.
Si l'art italien n'avait poursuivi que les hautaines satisfactions où l'entraînait Piero della Francesca, il aurait encouru, certes, le risque de quelque aridité. La perpétuelle tentation, l'intelligence, guette l'art italien comme un dangereux vertige. Pourtant, il faut signaler un grand maître, le plus grand maître de la fin du XVe siècle, Botticelli, qui vécut de 1444 à 1510. Il est de mode aujourd'hui d'affecter quelque dédain pour lui, pour sa complaisance de la grâce, mais c'est négliger son immense apport. Car il donne à l'art italien une nouvelle puissance qui va bouleverser l'art pour des siècles. Il lui apporte l'âme. J'entends l'âme individuelle, un être avec sa nature, sa sensibilité, un être avec ses rêves, ses désirs, cherche tout à coup à les assouvir par les images qu'il se crée. Et par là, il apporte aux autres le parfum de cette fleur inconnue, sa façon de vibrer, de sentir, d'aimer, de souffrir, tout cela, il le traduit pour les autres. Pour la première fois, peut-être, un artiste s'attache à satisfaire moins les règles altières de l'esprit, à flatter moins le vieux fond des curiosités collectives, qu'à suggérer la saveur d'un être unique, quelque chose qui n'a jamais existé avant lui, qui disparaîtra avec lui.
Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
C'était la voix de René Huyg, conservateur du musée du Louvre, historien de l'art, professeur au Collège France et qui était membre de l'Académie française de 1960 à 1997. C'était dans une archive de 1952. On entend dans cette archive qu'il célèbre l'œuvre de Botticelli, non pas seulement pour son attachement à l'esprit, mais aussi pour son âme et pour la singularité qui s'exprime à travers ses œuvres. Est-ce que, pour vous, Anna de Benedetti, avec Botticelli, on a pour la première fois dans l'histoire cette expression en fait d'une sensibilité singulière, et est-ce que c'est pas paradoxal avec justement cette culture aussi d'atelier, de création collective qu'on avait à Florence à l'époque ?
Alors non, c'est pas paradoxal, parce qu'en fait la culture d'atelier, elle est sous la direction d'un maître. Il y avait le maître d'atelier, donc en italien le capo bottega, qui donnait le ton à toute la production. Et l'idée quand même, c'était d'être aidé effectivement par plusieurs assistants. Alors il y avait, il fallait que ces assistants perdent complètement leur originalité pour se fondre dans le style du maître. Il n'était pas question que la production du maître soit de temps en temps la sienne, et puis qu'on voit par ailleurs qu'un tel ou un tel avait participé. Donc il y avait cette espèce d'harmonisation.
Mais comment ça se faisait, cette harmonisation ? Pardon, je vous coupe, mais c'est-à-dire que vraiment le maître donnait presque des cours, instaurait des règles. Comment ça se passait concrètement ?
Alors concrètement, on commençait très très jeune, vers 10 ans, on entrait dans l'atelier, on avait une formation qui durait, alors dans les textes, 6 ans, mais ça pouvait être un peu moins. Et puis on commençait vraiment par des tâches simples, et puis on commençait à dessiner, puis ensuite on montait en grade, et à la fin on pouvait assister le maître, soit l'assister, soit même prendre en charge pour les plus doués une partie de la production sur les dessins du maître. Il faut savoir que les dessins à l'époque, alors peu de dessins de Botticelli ont survécu, mais il dessinait énormément. Il était d'ailleurs reconnu par Vasari comme un très grand dessinateur qui dessinait fort bien, et tout le monde s'arrachait ses dessins. Et il était passé maître, et c'est ce que j'avais proposé aussi de voir dans l'exposition au musée Jacques Marandré, était passé maître dans l'art de combiner, recycler ses propres dessins. Et donc ici, c'était relativement facile. Mais dans la singularité de Botticelli, si on revient à ça, il faut voir aussi que dans cette Florence du XVe siècle, qui est extrêmement compétitive, il était bien loin d'être le seul artiste, et qu'à l'époque, il faut casser complètement cette idée romantique de l'artiste seul dans son studio, en train dans son atelier, en train de créer. Non, c'était pas du tout comme ça. C'était des brigades, c'était des compagnies.
Une grande discipline, j'imagine. Formé très tôt, levé très tôt, où chacun
pas
devait être
pas une grande discipline, beaucoup beaucoup de joie, beaucoup de farces qu'on se faisait les uns aux autres. On était très facétieux. Botticelli aussi a joué plusieurs tours à ses assistants. Une vie vraiment dédiée à l'art, et il fallait quand même faire tourner la boutique. Et donc en mots vulgaires, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et donc Botticelli a développé ce style très reconnaissable. Et donc, effectivement, quand vous voyez un Botticelli, même sans être spécialiste, vous reconnaissez immédiatement le style botticellien.
Alors, c'est quoi le style Botticelli ?
Alors, le style botticellien, c'est une combinaison de choses. Il a un style qui a déjà été décrit comme très linéaire. On dirait presque des dessins colorés. Il y a cette ligne qui est très marquée. Et il y a ce visage de la Madone qu'il fixe relativement tôt dans sa carrière, et qui va ensuite décliner à l'envi, que ce soit dans les scènes sacrées comme dans les scènes séculaires. Il en fait de même d'ailleurs pour les personnages masculins, mais ça a moins percuté, on va dire, l'imaginaire collectif. Et puis il y a ce que j'appelle la touche Botticelli, c'est cette part de mystère, cette part de singularité qui fait que c'est inimitable. Et donc, quand on parle effectivement de la culture d'atelier, il faut bien comprendre que c'est Botticelli qui est le dessinateur, le designer, c'est lui qui fournit les modèles, et c'est lui qui repasse par derrière dans certaines compositions pour donner justement, pour ajuster, pour mettre en forme, pour harmoniser la composition.
Mais on a des documents justement de cette manière de travailler de Botticelli qui repasse après et qui va apporter sa touche, qui va peut-être d'un coup de pinceau mettre ce qui le caractérise lui-même, cette singularité dont on parle.
Alors on n'a pas de documents sur Botticelli lui-même, par contre on a des documents sur d'autres peintres, notamment sur Léonard de Vinci qui faisait ça dans une lettre assez célèbre. Et puis, c'est vraiment aussi, on a des témoignages de comment était tenue une bottega à l'époque. Donc, on sait plus ou moins comment ça fonctionnait. Et sur Botticelli, effectivement, quand on regarde le printemps, il faut se poser la question. Enfin, il faut comprendre qu'il n'y a pas que Botticelli, il y a forcément aussi l'atelier. Mais vous ne le voyez pas. C'est ça la culture d'atelier. C'est se fondre dans le style du maître et réussir une œuvre, alors cette collective, mais qui est marquée du sceau du maître.
Alors c'est vrai que quand on... Il y a à peu près combien de personnes qui travaillaient dans cet atelier ?
Alors c'est fluctuant. Ça peut être une ou deux personnes au début. Ça pouvait aller peut-être jusqu'à 5 ou 6, et puis ça retombe ensuite en fur et à mesure de ses succès et de ses...
C'est vrai que quand on voit cette dimension, ces dimensions du tableau, on a du mal à voir Botticelli tout seul, qui arrive à peindre de manière aussi détaillée ses fleurs, ses vêtements, 2 mètres sur 3, c'est énorme, effectivement, on imagine qu'il y a toute une brigade, et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... un peu de contre-intuitif pour nous d'entendre en fait cette culture de l'atelier-là. C'est-à-dire qu'on voit un artiste, il y a un seul artiste, il y a un auteur, il y a un style. On a du mal à comprendre cette idée d'une corporation presque artisanale en fait, d'un chef-d'œuvre comme celui-ci.
Et pourtant, c'est parce qu'on a été tellement finalement marqué par la vision romantique de l'art et de la création qu'on a du mal effectivement à revenir à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus empirique, on va dire, au XVe siècle. Et c'est bien avant la naissance des académies des beaux-arts où finalement le savoir au milieu du XVIe siècle va être systématisé, catégorisé et donc un peu découplé. Et on perd complètement cette culture de l'atelier où on était un peu touche-à-tout et puis on se faisait aussi au maître, enfin sous la patte du maître. Alors effectivement, l'académie, elle a essayé aussi de parer à un écueil qui était le fait que tous ces grands maîtres, ils étaient plus ou moins pédagogues. Et donc on apprenait plus ou moins en fonction de chez qui on tombait. C'est pas parce qu'on est un grand peintre qu'on était forcément un grand pédagogue.
Mais voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que comment on enseignait ça ?
C'était un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. C'était, voilà.
On sait qu'il y avait des maîtres qui étaient très mauvais pédagogues.
Alors, est-ce qu'on sait... on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des maîtres qui n'ont pas vraiment eu de suiveurs. Et donc, par exemple...
Donc c'était un échec dans leur pédagogie, d'une certaine manière.
Alors peut-être, mais par exemple, le maître de Botticelli, c'était donc ce grand peintre Filippo Lippi, avec qui il a appris énormément, non seulement du point de vue de la peinture de chevalet, mais également sur la technique de la fresque, ce qu'il mettra à bon escient quand il sera appelé par le pape à décorer la chapelle Sixtine, qui est toute décorée à fresque. Et puis, malheureusement, Filippo Lippi meurt après que Botticelli l'ait quitté, donc après avoir complété son apprentissage. Filippo Lippi meurt et laisse son propre fils, qui a à peu près 13 ans, Filippino, donc le petit Philippe, et c'est Botticelli qui va recueillir évidemment Filippino et qui va finir de lui transmettre ce qu'il a lui-même appris du père. Et ils resteront amis toute leur vie, enfin c'est des compagnons et il y aura des renvois d'ailleurs entre leurs deux œuvres qui sont absolument... Et c'est là aussi qu'on voit comment cette culture d'atelier finalement se transmet de l'un à l'autre. Alors il y avait des assistants qui n'avaient pas la capacité de créer un répertoire tel que celui de Botticelli. Hein, parce qu'il y a non seulement la dextérité graphique, mais il y a aussi toutes ces images que vous créez, ce répertoire que vous créez, cette singularité que vous créez, dans laquelle Botticelli a œuvré et avec grande maîtrise et avec beaucoup d'imagination. Filippino lui aussi, très, très rapidement, va complètement créer son propre répertoire et va être connu comme un très grand peintre aussi, dans un style assez différent de Botticelli. Mais il y a d'autres personnages qu'on ne peut pas identifier dans les tableaux, mais qu'on connaît par les textes, qui sont restés quasiment toute leur vie au service de Botticelli et qui ont donc toujours fait du Botticelli.
Vous avez parlé tout à l'heure justement de cette culture un peu du recyclage, c'est-à-dire des figures qu'on retrouve, qui se répètent, de ce répertoire. Comment on peut envisager une forme de renouvellement d'un tableau à l'autre? Ça fait d'une certaine manière le style de Botticelli et de son atelier, mais d'une autre manière, ça fait aussi une peinture qu'on peut trouver d'un tableau à l'autre, peut-être, j'ose, monotone, c'est-à-dire extrêmement répétitive en tout cas.
Alors, il faut savoir que les sujets à l'époque étaient assez répétitifs. Il y avait quatre grands thèmes byzantins hérités de l'art byzantin qui informaient finalement les peintures religieuses, donc quatre déclinaisons de la Vierge à l'Enfant. Et c'était surtout ça dont étaient friands quand même les Florentins à l'époque. Il y a un culte à Florence spécifique rendu à la Vierge Marie. Et donc c'était extrêmement difficile de pouvoir se renouveler dans ce répertoire très restreint. Et pourtant Botticelli réussit et réussit en se recyclant lui-même. Et en fait, si vous ne prêtez pas vraiment attention, si vous n'imprimez pas tous les tableaux, les mettez par terre et puis les
comme
regardez,
on les a là,
voilà,
dans le
comme
studio.
On les a là ici, vous verrez pas la répétition parce que il y a cette ingéniosité, il y a ce génie du recyclage qui est aussi une stratégie. Alors c'est une économie de moyens, ça permet de se renouveler dans la répétition d'une façon assez efficace, et c'est aussi une stratégie commerciale permettant effectivement de garder une ligne stylistique immédiatement reconnaissable.
C'est vraiment cette question de l'originalité qui est importante, surtout à la fois dans cette répétition, dans ce collectif. Par exemple, j'ai mis à côté la naissance de Vénus et donc le printemps. Et effectivement, le visage de Zéphyr est exactement le même. Le visage de la Vénus est exactement le même aussi. C'est même surprenant, effectivement, à quel point Zéphyr, qui a les joues gonflées, se retrouve juste, en fait, dans un cadrage légèrement différent, c'est ça?
Ah oui, alors Zéphyr et Chloris, en fait, ils sont tous les deux dans les deux tableaux. Et eux-mêmes sont une citation d'une œuvre antique qui était dans la collection de Laurent le Médicis, qu'on appelle la Tasse Farnèse, qui est un camée, en fait, un camée d'assez grande dimension. Et donc, non seulement il y a un recyclage, un auto-recyclage des propres œuvres de Botticelli, mais Botticelli fait énormément de citations graphiques aussi dans sa propre œuvre. Donc vous avez cette combinaison de sources qui est assez intéressante et qui est toujours renouvelée. Alors vous les mettez là, l'un à côté de l'autre, vous le voyez, mais si on n'avait pas attiré votre attention, vous n'auriez peut-être pas remarqué cette répétition.
Non.
Et elle n'est pas gênante puisqu'elle est renouvelée, en fait. Elle est recontextualisée à chaque fois.
Donc cette répétition effectivement est à chaque fois recontextualisée. Néanmoins, vous l'avez dit, le style de Botticelli est repérable. À quel moment, en fait, on peut envisager une ouverture du répertoire à cette époque, ou au contraire, c'était jamais envisageable? On pouvait renouveler son style, son trait, on pouvait apporter une manière, j'imagine, de traiter la peinture différemment, mais à quel moment le répertoire a pu s'ouvrir sur d'autres figures qui soient pas que religieuses ou mythologiques? Logique.
Alors, il y a les portraits. Même là aussi, avec les portraits de Botticelli, on est bien embêté parce que, à part peut-être celui du Victorian Albert Museum, où c'est probablement une femme réelle, les autres portraits semblent quand même être des portraits assez idéaux. Vous avez devant vous, je crois, ce fameux portrait qui est conservé à Francfort.
De Simonetta Vespucci, c'est ça?
Il est dit de Simonetta Vespucci. Alors, Simonetta Vespucci, c'était un personnage assez important dans ce monde médicéen, puisqu'elle est une femme mariée. À la famille Vespucci. Elle était très belle et elle était l'aimée de Julien de Médicis, donc le jeune frère de Laurent le Magnifique. Et il lui dédie donc la joute qu'il organise et qu'il gagne en 1475. Elle est sa dame, mais au sens, si vous voulez, chevaleresque du terme, c'est-à-dire cette belle dame qu'on aime d'un amour platonique, qui est souvent déjà engagée ailleurs. Et donc cette Simonetta, on a aucun portrait d'elle. Et en même temps, elle est décrite dans les textes d'une phase. Enfin, on décrit sa beauté. Mais le problème, c'est que Politien, par exemple, va décrire la beauté de Simonetta, mais il va décrire la beauté de Simonetta dans des termes poétiques qui font partie du canon de la poésie courtoise. Et donc, toutes ces femmes de Botticelli, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit Vénus, que ce soit le portrait que vous avez sous les yeux, participent finalement, correspondent à ce canon. Alors, c'est un canon assez vague, hein, c'est un grand front, des cheveux plutôt blonds, mais des sourcils plutôt foncés, des pommettes saillantes, une bouche ourlée mais fine, et des dents qui ressemblent à des perles. Donc, on a vraiment et finalement, quand on a ça dans la tête, effectivement, elles correspondent toutes à ce canon-là. Alors, est-ce que dans la vraie vie, Simonetta, en fait, ressemblait physiquement à ce canon, ou est-ce que le canon a pris le pas sur la beauté de Simonetta parce qu'elle était belle et que donc il fallait la décrire en termes courtois? On ne le saura jamais.
Donc, comme vous le voyez, les formes sont très flatteuses. Et là, la Vénus capitoline. La Vénus des Médicis.
Elles sont nues? Mon époux ne le... Je ne sais...
Bien sûr, je propose des idées. Vous pouvez poser habillé comme...
Vous cherchez à vous dépasser, c'est bien cela?
Oui. Giuliano, tu vas incarner le dieu Mars. Dans la scène racontée par Ovide, il se repose allongé. La beauté l'a entraîné vers l'amour, qui avec le temps lui a apporté la paix. Maintenant, il peut enfin contempler Dieu.
Mais que faites-vous? Qu'est-ce qui vous prend?
Les dieux ne sont pas vêtus, que je sache.
Giuliano, allonge-toi. Contemple Dieu. Giuliano, tes yeux, ferme-les.
Vraiment ?
Sonde le fond de ton âme.
N'en profitez pas.
Je préférerais encore regarder mon mari compter ses pièces.
Encore un extrait de la série Les Médicis, maîtres de Florence. Alors on entend cette fois-ci Botticelli qui compose, qui réalise son tableau Mars et Vénus et qui demande donc à Simonetta Vespucci et Julien de Médicis de poser pour lui. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, Anna de Benedetti. En tout cas, ce qui est intéressant dans cet extrait, d'une part, c'est la nudité, la question de la nudité, parce qu'effectivement, les femmes sont souvent dénudées dans les tableaux de Botticelli, ou alors très peu vêtues, sauf Vénus, dans le printemps justement, dont le visage est couvert. Et puis, c'est aussi cette idée, dans l'extrait qu'on a entendu, l'extrait de pouvoir atteindre une forme de contemplation de beauté divine, c'est-à-dire qui n'est plus dans le visible, qui n'est plus concrète, mais de passer par la beauté pour atteindre une forme d'idéal. Et on trouve ces deux choses qui coexistent chez Botticelli, à savoir une beauté assez sensuelle, charnelle, de la nudité, et en même temps comme une sorte d'appel à dépasser cette dimension charnelle.
Oui, alors y a plusieurs questions dans alors déjà il est complètement anachronique de penser que Simonetta et Julien aient pu effectivement poser pour un tableau de Botticelli. Par contre, on sait que à l'intérieur de l'atelier, les assistants posaient les uns pour les autres. Pas forcément dénudés d'ailleurs, ils posaient en général habillés et la licence artistique déshabillée dans la version finale.
Et ça n'était que des hommes.
Et ça n'était que des hommes, bien sûr. Mmh. Ensuite, le Mars et Vénus, c'est aussi un tableau qui offre une pluralité de lectures. Alors, pourquoi Mars et Vénus ? Bien parce que Vénus, la planète Vénus adoucit les ardeurs, l'influence astrale de Mars. Et il y a cette explication-là, enfin cette lecture-là. Il y a aussi effectivement ces petits satyres qui emmènent la lance de Mars, mais qui en fait est typiquement une lance de tournoi du 15e siècle à Florence. Donc on a là aussi une contamination du mythe et du vernaculaire qui est tout à fait typique et qu'on a déjà vu dans le printemps. Alors effectivement, le mythe de Vénus est très important pour l'élite intellectuelle de l'époque. Et c'est matérialisé en quelque sorte, pour faire simple, par Marcille Ficin, qui, à travers la réintroduction en Occident de la pensée de Platon, a une lecture finalement pratiquement néo-platonicienne de tous ces textes-là, et propose, mais c'était déjà finalement au cœur de la poésie courtoise, que la beauté physique soit en fait le vecteur qui amène à la beauté divine qui se confond avec l'imbien, parce qu'il est perfection, et que donc le bien, la perfection, c'est l'unité régente du monde. En fait, on est à une époque où on ne comprend pas comment l'univers tient, et donc l'univers tient grâce à tout un réseau d'influences astrales, philosophiques. Et donc, on essaye d'expliquer le monde avec les outils qu'on a à l'époque. Mmh. Et donc, cette idée-là est très forte et on la retrouve dans la poésie, parce que si vous pensez à Dante, si vous pensez à Pétrarque, finalement, les deux grandes œuvres qu'ils ont écrites, c'est sa part de l'amour pour une femme réelle, hein, Béatrice d'un côté pour Dante et puis Laura pour Pétrarque. Et à la fin des deux poèmes, on va vers le divin, on va vers la Vierge Marie, et au-delà de la Vierge Marie, on va vers le divin. Et c'est tout finalement la puissance de l'image qui est intéressante. Et si on revient au tableau lui-même, le tableau lui-même est vecteur en fait. Alors il est vecteur notamment pour l'image religieuse, puisqu'il ne doit être que support, et amener la méditation spirituelle au-delà de l'image vers le divin. Et c'est bien un problème, justement, notamment pour Savonarole, qui va quand même influer tristement sur le style si harmonieux et si beau de Botticelli, puisque le problème, c'est que quand effectivement la Vierge Marie est si belle qu'on s'arrête à elle, l'image devient une fin en soi. Et elle perd son statut de vecteur, sa fonction de vecteur, qui est d'aller au-delà pour atteindre finalement cette contemplation divine.
C'est les critiques qu'on a pu faire à Botticelli, justement, de faire des tableaux trop beaux.
Oui, en tout cas, sans le nommer, Savonarole exprime bien dans ses sermons que c'est pas possible. On peut pas avoir des vierges qui ressemblent à ces belles dames florentines. On peut pas avoir, il faut que l'image reste et demeure un vecteur.
Ce qui est paradoxal aussi avec Botticelli, et on en a parlé au tout début de l'émission, Anna de Benedetti, c'est que on le connaît, ces images nous sont familières, et pourtant on ne sait pas forcément en déterminer l'origine. On ne sait pas forcément qu'il s'agit de tel tableau de Botticelli. Botticelli est un nom qui peut nous parler, mais on n'aura pas forcément de grandes connaissances sur lui. Comment expliquer que, malgré les débats ou peut-être les critiques qu'a subi Botticelli, l'oubli aussi, on a redécouvert Botticelli qu'à la fin du XVIIIe siècle, comment ça se fait en fait qu'il ait marqué l'imaginaire à ce point-là, au point qu'aujourd'hui, même certaines images fassent penser à des albums de musique pop?
Oui, alors effectivement, Botticelli, après avoir influencé son style pour répondre à cette nouvelle exigence esthétique formulée par Savonarole, tombe dans l'oubli, il meurt quasiment.
Donc il ne réussit pas du tout à suivre l'injonction, à se transformer.
Alors en tout cas, ce qu'il suit comme instinct, enfin cette espèce de retour un peu à des traits archaïques pour justement essayer de contrer cette critique de Savonarole, ne prend pas, n'a pas le succès escompté, mais il y a d'autres facteurs qui viennent en compte aussi, facteurs extérieurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1510, quand Botticelli meurt dans la misère, il est rapidement oublié. Ses œuvres d'ailleurs demeurent, notamment La naissance de Vénus et le printemps demeurent quasiment hors de portée de la vue hein, dans les demeures médicéennes. Et on l'oublie complètement jusqu'à une redécouverte finalement à partir de la toute fin du XVIIIe et puis surtout au cours du XIXe siècle, quand on demande finalement, quand il y a une exigence intellectuelle d'un retour à une forme de pureté, de simplification. Et là, on retrouve cette idée d'aller chercher les artistes avant la génération de Raphaël, ou alors avant Raphaël à Rome. Puisque Raphaël et Michel-Ange prennent vraiment le dessus, dominent tout le XVIe siècle et vont dominer toutes les études académiques jusqu'au XIXe. Et puis au XIXe, il y a cette espèce de retour comme ça, comme quoi il fallait... il y a un désir autre. Et donc en Angleterre en particulier, c'est les pré-raphaélites hein, qui vont s'inspirer de Botticelli d'une façon très importante, mais aussi en France et en Italie également. Et à ce moment-là, il y a cette résurgence, ce renouveau finalement botticellien. Et en fait, ce que je disais auparavant, cette histoire de culture humaniste, de culture courtoise, de véhicule en fait, de modèles qui sont ancrés finalement dans la culture occidentale, ressurgit complètement et on reconnaît en Botticelli finalement quelque chose qu'on n'a jamais vraiment lâché, même si on en avait perdu l'image incarnée. Et je pense que c'est là vraiment que finalement Botticelli re-rencontre son public et qu'il est toujours aussi, aussi présent maintenant.
Ce qui se retrouve aussi d'ailleurs même, et on va se quitter là-dessus, sur ce canon, cette beauté féminine que vous décriviez, qui est effectivement encore aujourd'hui un certain canon esthétique. Les yeux clairs, le front haut, l'harmonie des traits, les traits fins, c'est des choses dont on n'arrive pas à se départir.
Oui, tout à fait. Même dans le monde de l'all inclusive, du body inclusive, effectivement, il y a quand même cet idéal qui est, je pense, parce qu'il est transmis finalement dans toute cette culture dans laquelle on a vécu et on est toujours les enfants de son propre temps, mais le temps ne vient pas ex nihilo. Il est l'aboutissement d'une longue tradition qui nous vient finalement quasiment de l'Antiquité et l'humanisme médicéen participe et contribue à véhiculer ces images.
Merci beaucoup Anna de Benedetti de nous avoir parlé de ce magnifique tableau de Botticelli, Le Printemps. Si vous avez l'occasion d'aller à Florence, eh bien, allez voir ce tableau. Sinon, il y a aussi le catalogue de l'exposition dont vous avez été co-commissaire, Botticelli, artiste et designer. C'était au musée Jacques Marandré à Paris, dans une coédition Fonds Mercator et Culture Espace. Et puis, on peut aussi lire dans aux excellentes édition Gallimard, découverte le Botticelli par Morena Constantini. Merci encore à vous.
Merci.
l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture.